Radio Cité Genève, Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je suis très émue car je reçois quelqu'un d'extraordinaire. Nous avons passé d'ailleurs l'émission hier que nous avions enregistrée ensemble il y a 11 ans. Je suis devant le professeur Francis Balvogel. Bonjour Francis.
Bonjour Viviane. Plaisir de vous revoir.
C'est formidable de se retrouver 11 ans après.
Absolument, c'est un plaisir.
11 ans après. Alors, je vais quand même énumérer, même si nos auditeurs fidèles ont entendu hier après-midi le nombre de casquettes invraisemblables que vous avez, je vais quand même les répéter. Vous êtes professeur de médecine, vous avez été directeur du département de médecine à Genève, vice-président du Conseil de la science et technologie suisse, président des écoles polytechniques fédérales, ça c'est incroyable quand même, des deux écoles, cofondateur du World Knowledge Dialogue, une plateforme promouvant un meilleur dialogue entre sciences naturelles et sciences humaines et sociales. Et puis c'est pas tout, vous avez présidé le Novartis Venture Fund, soutenant le développement de plus de 60 startups dans les sciences médicales et diverses institutions à but humanitaire, social et de finances inclusives. On va en parler tout à l'heure pour expliquer ce que c'est. Mon cher Francis, tant de couronnes, tant de casquettes. Ouf. Quel regard vous portez sur tout ça ?
Bon, je dis que j'ai eu beaucoup de chance. J'étais au bon moment actionner en fait des leviers que je suspectais pas que je pourrais actionner dans ma vie. J'étais parti avec l'idée de devenir un bon médecin. Bon médecin, hein, j'ai dit. Bon médecin. J'avais envie d'être un bon médecin dans la campagne genevoise aux Vaudoises. Et puis le destin a voulu autrement. Et puis de fil en aiguille, on m'a offert des places de plus en plus. Et puis j'ai jamais été chercher des places. C'est arrivé comme ça. Donc pour résumer, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. C'est pour ça que ça s'est bien enchaîné.
Mon cher Francis, je ne crois pas à la chance. Je crois que effectivement, il faut savoir monter dans les trains qui passent. Ça, vous l'avez sûrement fait, mais je crois quand même que tout est à base de beaucoup de travail, de beaucoup de sérieux, de beaucoup de professionnalisme.
Alors, le sérieux, certainement, le professionnalisme, sérieux, je les revendique volontiers. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Beaucoup de gens ont toujours cru que je faisais les choses avec une aisance époustouflante, mais c'était pas du tout vrai. Il y avait un énorme travail derrière. Et j'ai remarqué souvent, c'est comme, vous savez, c'est comme un artisan qui fait un outil, donc on le voit sculpter un outil, on dit, ça doit être tout simple. Et puis en fait, c'est des années et des années et des années de travail pour que ça soit lisse, pour que ça soit juste la bonne taille, pour que ça soit bien dans la main, etc. Donc c'est un petit peu la même chose. Je crois que c'est de la fausse facilité qu'on voit chez moi. C'est la facilité que le travail aboutit. Et le travail aboutir redonne une certaine facilité. On voit ça dans la musique aussi. Les grandes interprétations, elles sont simples.
Alors vous savez, c'est très important de le dire parce que cette émission est destinée quand même à être un passage de valeur à des personnes qui n'ont pas eu la chance de vous croiser ou de vous rencontrer. Et c'est vrai que parler de chance, il y a trop de gens aujourd'hui qui disent « j'ai pas eu de chance ». C'est pas qu'ils n'ont pas eu de chance, c'est qu'ils n'ont peut-être pas mis les efforts qui convenaient au moment qui convenait. Alors oui, il y a une part de chance, mais il y a énormément de travail et de sérieux qui est nécessaire.
Ça, je suis absolument d'accord avec vous, mais laissez quand même une petite tranche à la chance pour pouvoir dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui n'ont malheureusement pas de chance.
Alors, le regard, c'est donc beaucoup de travail.
Oui.
On va corriger la chance. J'y tiens.
Absolument.
Beaucoup de travail.
Absolument. Je le revendique volontiers. Je ne me gêne pas à le dire. J'ai beaucoup travaillé, des heures et des heures et des heures, plus que les autres. Je suis un petit dormeur. Je suis un travailleur très efficace. Donc, j'ai gagné là beaucoup, beaucoup de temps par rapport à beaucoup d'autres personnes.
Vous voulez dire, vous dormez combien d'heures par nuit ?
Maintenant, je dors bien. Normalement, je mets 7 heures par nuit. Mais quand je travaillais, j'étais à 5h30.
Voilà, 5h30 était suffisant.
Ouais, voilà, suffisant.
Et ça vous permettait effectivement de faire beaucoup de choses. Ça vous a gagné 3 heures en moyenne.
Donc l'énumération que vous avez faite tout à l'heure, elle est un petit peu due au fait que je dors peu.
Ça, c'est drôle aussi. Alors, mon cher Francis, on va pas repartir dans toute votre vie, parce que vous savez que dans cette émission, on vous fait raconter le petit garçon que vous étiez, etc. Mais tout ça, ça a été redit dans l'autre émission, celle d'il y a 11 ans.
Oui, ça n'a pas changé. Donc on va pas,
voilà, c'est ce que j'allais dire, ça n'a pas changé. Ce qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, c'est quand vous nous avez parlé aussi de la crise des 50 ans. Ça, ça n'a pas changé non plus. Je me souviens, je vous avais dit, même vous.
Oui.
Même vous, ça n'a pas changé.
Je revendique ça et je le vois maintenant chez des plus jeunes. Et je leur dis de faire attention, que c'est un carrefour dans la vie. Et que surtout maintenant que les gens deviennent beaucoup plus âgés, on a ensuite une deuxième partie de la vie qui commence. Je veux dire, souvent après 50 ans, autrefois, c'est un petit peu la fin de la vie. Hein. Vous étiez, et cette crise de 50 ans, je pense qu'elle est conditionnée de façon importante par la longévité des gens. Parce qu'on peut vivre jusqu'à 80, 90 ans, tant qu'à 50 ans, on peut se dire, on a une deuxième tranche qui va venir, une deuxième chance qui vient. Donc, je pense que cette crise, dans le sens grec du terme que j'avais déjà dit à ce moment-là, dans le sens rebond, refaire quelque chose de nouveau, elle existe et je conseille à tout le monde de faire bien attention à elle et de l'écouter.
Donc, de faire très attention autour des 50 ans à la crise qui va survenir, une crise psychologique, une crise morale, existentielle.
Elle est existentielle, je dirais plus que psychologique, elle est existentielle et elle est crise dans le sens, comme je dis, grec du terme, c'est une étape pour rebondir, pour faire quelque chose d'autre ou différemment dans la deuxième partie de sa vie.
Radio, Cité, Genève.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Retour avec le professeur Francis Waldvogel. Alors, que faites-vous aujourd'hui, mon cher Francis ?
Eh bien, j'ai le plaisir d'être ici avec vous. Ça, c'est la première chose aujourd'hui.
Le plaisir est vraiment partagé.
C'est vraiment un grand plaisir. Je m'occupe de différentes choses. Genre, rapidement pour les énumérer, je m'occupe d'une association qui s'occupe de coordonner les soins à domicile. C'est la lutte contre la fragmentation de la médecine
dont on va parler d'ailleurs parce que c'est un passage important de votre livre. Oui.
Je m'occupe des plastiques dans les océans, de la pollution des plastiques dans les océans. C'est aussi quelque chose qui m'est très à cœur. Je suis très actif dans les colis du cœur ici à Genève, donc dans la distribution d'aliments aux gens qui sont nécessiteux. Je suis la cheville ouvrière de la rénovation du Conservatoire de musique de la Place Neuve, donc c'est moi qui ai mis en route le programme, et je suis un des membres des quelques membres qui s'occupent maintenant de la fin de la rénovation. Ça sera un magnifique bâtiment d'ici l'automne prochain, et puis le printemps prochain. Et puis, j'ai fait beaucoup de musique. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce livre qui m'a fait très, très plaisir à écrire, que je vois devant vous là.
Mais absolument, tableau de la vie, échange, émergence, complexité, aux éditions Odile Jacob, avec une préface du professeur Magistretti, de Pierre Magistretti, que nous avons eu d'ailleurs il y a quelques années ici micro.
Très bien, non, voilà. Remarquable.
Et qui, je crois, vit en Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est ça ?
Il est doyen de la faculté de biologie à l'université de Kaos, que j'ai visité à plusieurs reprises, invité pour donner des conférences.
C'est à quel endroit ?
C'est absolument extraordinaire, c'est en plein désert.
En plein désert.
On rappelle peut-être
que c'est lui qui a trouvé que les synapses du cerveau, au lieu de s'user, au contraire, pouvaient se redévelopper,
entre autres. Il est donc là-bas, mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est ce King Abdullah University of Science and Technology. Ça a été fondé par le roi Abdullah, qui, dans la mer, ne savait pas écrire. Qui était un homme absolument incroyable de sagesse. Il a décidé d'écrire en plein désert avec les gains du pétrole une université modèle qui est absolument un modèle du genre absolument superbe au point de vue architecture et même, et c'est important à dire, au point de vue droit humain. C'est l'université où les femmes ne sont pas voilées, elles se promènent en jeans.
On est en Arabie Saoudite,
on est à 70 km de Jeddah. Ah oui. Et j'y vais de temps à autre pour donner des conférences, et c'est absolument extraordinaire de voir à quel point il y a, même dans un pays que l'on croit très très figé, il y a des mouvements modernes de libération et d'activation des droits civiques absolument remarquables. C'est pour ça que j'y vais.
Mais oui, donc vous y allez de temps en temps ?
Oui, j'étais plusieurs fois, oui.
Plusieurs fois.
J'étais donné des conférences, et puis maintenant j'étais pris comme expert pour le programme national de recherche.
Francis, ouais. Vous n'avez plus les mêmes casquettes, non. Mais vous avez renouvelé les casquettes, vous en avez plein d'autres.
Elles sont plus petites.
Je ne sais pas. Oui.
Juste la taille de ma tête qui est aussi plus petite.
Je ne crois pas. Alors, je peux quand même redire quelque chose pour nos auditeurs qui n'ont pas la télévision, qui ne vous voient pas, que vous êtes toujours un éternel jeune homme. Vous n'avez pas bougé en 11 ans. Je ne sais pas comment vous faites. Là, il y a un miracle. Est-ce que ça ne serait pas justement le travail, l'intérêt ?
Une chose qui me maintient entre guillemets jeune, parce que la biologie prend ses droits quand même, mais une chose qui me maintient jeune, et je dois le répéter toujours, c'est que je vis avec des jeunes.
Voilà.
Je vis avec des jeunes sans arrêt, depuis toujours. Chaque fois que je prends une génération de plus, je les prends un petit peu plus jeunes. Donc maintenant, la différence d'âge est encore plus grande, mais j'adore être avec les jeunes, et puis ils me le rendent bien. Et je pense que c'est un des secrets de rester actif, de rester jeune. C'est peut-être très important.
Et puis, vous êtes resté très mince, le secret.
Là, c'était le Covid. J'ai profité du Covid pour perdre du poids.
C'est vrai ?
Oui.
Parce que la plupart des gens qui sont restés confinés, dont je fais partie, au contraire, pas mal, pas mal arrondis.
Comme vous savez, je ne fais pas les choses comme les autres. Je fais le contraire.
Et comment avez-vous fait alors ? Vous avez fait un régime ?
J'ai fait avec ma femme, on a fait un régime spécial pendant 2 mois.
Oh là là, est-ce qu'on va vous demander le régime alors?
Oui, je vais vous le dire, c'est le régime sans glucides.
Sans glucides.
Oui. Ouais.
C'est-à-dire pas de pain, pas de pâtisserie.
Pas de pain, pas de pâtisserie, pas de chocolat, pas de pâte, pas de riz, pas de féculents. Qu'est-ce qui reste?
On peut manger de la
toute la viande, viande, poisson, légumes.
Viande, poisson, légumes, des fruits.
Et un coude rouge, on a le droit.
Ah, ça, c'est très important.
Oui, oui, on a le droit.
Parce que ça, je vais vous
des
dire...
Des fruits, on ne peut pas, parce qu'ils contiennent beaucoup de fruits et de sucre, les fruits. On
alors, pas prendre de, pas de...
Très peu de fruits.
Très peu
mais,
de fruits.
Mais des salades,
pas
des légumes...
Fromage, pas de fromage.
Si, fromage, on
fromage,
peut.
Fromage, oui.
Fromage, donc,
à pas de dur ou à pâte molle,
pas de... celui que,
celui, j'en profite
celui que vous préférez. Celui que vous préférez.
Ben, nos auditeurs vont être absolument ravis d'avoir, voilà.
Alors ça, c'est,
d'avoir un
c'est
régime.
Un petit avantage de nos discussions. Vous pouvez vendre ce régime
non,
sur
non, je ne vais rien vendre du tout parce que donner, c'est réseau. Très beau.
Et je dois dire, ça a très bien marché. Ça m'a permis de perdre 6 à 7 kilos, ce que je voulais juste.
Alors, est-ce qu'il y a une limitation dans le nombre de verres de vin rouge?
En tout cas, pas chez nous.
Parfait. Oh, parfait. Ça, c'est le régime idéal.
Oui, c'est un régime idéal. Oui, mais il faut qu'il soit bon, le vin rouge.
Ah oui, oui, oui.
Pas,
oui, oui.
Pas de la
non,
piquette.
Non, non, pas de la piquette. Non, mais ça, on ne voit jamais de piquette.
Voilà, non,
non, non. Et puis, il y a suffisamment de bons vins rouges en Suisse maintenant.
Oui, bah, oui.
Et on peut être facilement... voilà, on peut facilement lever un verre à la santé. Moralement, je le fais, de nos auditeurs.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Thank you.
Genève.
Retour avec le professeur Francis Waldvogel, avec qui nous discutons donc à bâton rompu. Maintenant, nous avons partagé un régime. Et de la suite, je voudrais qu'on commence à parler de votre livre, parce que l'émission aujourd'hui va tourner autour du livre. Qu'est-ce qui vous a fait écrire ce livre? Ce qui m'a vraiment étonné au-delà de ce qu'il est possible de dire, c'est l'impression que on était peut-être assis dans le vide. On voyait peut-être ce qui n'existait pas, mais on ne voit pas ce qui existe. En fait, on est en plein quoi? On est en pleine obscurité?
Non, on est en plein vide sur une énergie.
En plein vide sur une énergie.
Je veux peut-être que. Pour les auditrices et les auditeurs, c'était peut-être un petit peu ésotérique, mais je vais essayer de vous expliquer en quelques mots l'idée de base. Le livre s'appelle donc « Tableau de la vie » et il s'appelle ensuite, les sous-titres, c'est donc « Échange, émergence et complexité ». L'idée de base que j'ai eue, c'est de me dire, on voit, on est maintenant, je suis devant vous, chez vous, je vois les magnifiques arbres à l'extérieur, les feuilles qui bougent, je vois les montagnes, je vois des pierres, je vois le gazon, et on voit tout ceci de façon relativement inerte. On dit que ce sont des objets que nos yeux sont capables de capter. Donc notre vision a une façon relativement inerte de voir les choses. Nos sens, c'est la même chose. Ils voient simplement des objets et des sujets. Mais en fait, lorsqu'on creuse, tout ce que je vois est animé de mouvements dans tous les sens.
C'est ça qui est fascinant.
Tout ce que je vois, les feuilles d'ici, cette magnifique hortensia que je vois là, vous-même, les feuilles des arbres, ce sont un échange absolument incroyable de particules et d'énergie qui se fondent en quelques microsecondes de façon permanente. Je prends un tout petit exemple. On a ces belles feuilles qu'on a devant nous. Ces feuilles sont vertes. Elles sont vertes parce qu'elles contiennent un pigment qui s'appelle la chlorophylle. Chaque millimètre de feuille en contient des millions de ces molécules. Ces molécules captent l'énergie solaire, se forment des rayons solaires. Elles transforment cette énergie solaire en énergie électrique, mais dans des millionièmes de seconde. Elles transfèrent cette énergie électrique ensuite en électricité chimique, et ça permet de faire des légumes, ça permet de faire des fruits, ça permet de faire des plantes, ça permet de faire la vie. Alors là, c'est vrai pour la nature, mais c'est vrai pour tout ce qui nous entoure. Et je me suis rendu compte que les échanges étaient quelque chose d'absolument incroyable, c'est ce qui formait la vie, que les échanges c'était la vie. Et depuis là, je me suis dit, il faut que j'essaye de partager ceci avec d'autres personnes. Et mon idée du livre, c'est de prendre mes lecteurs par la main, mes lectrices par la main, et de les conduire à travers ce monde absolument merveilleux qui est presque un monde d'Alice au pays des merveilles, ce monde absolument extraordinaire des échanges, et leur montrer qu'à tous les différents niveaux, c'est les échanges qui font la vie et qui font la beauté de ce que nous vivons. Et alors, Le deuxième élément du livre, c'est-à-dire quand il y a des échanges, et ça on le sait très bien, plus il y a des échanges, plus on enrichit en quelque sorte les structures et il y a émergence de nouvelles qualités. Et c'est cette
nouvelle qualité, c'est-à-dire
je vous donne des exemples de qualité.
Oui, parce que c'est très savant quand même, Francis. Pensez que nous ne sommes pas tous de grands scientifiques comme vous.
Non, mais c'est pour ça que je veux simplement mener les gens par la main au travers de ce dédale pour leur montrer que le monde est fait d'échanges et grâce à ces échanges émerge la vie, émerge la conscience humaine, émerge l'amour, émerge l'amitié et toutes ces grandes qualités que l'on connaît. C'est ça le but du livre. Le reste, ensuite, c'est simplement une déclinaison au travers de multiples paysages qui sont soit la nature, soit la biologie, soit même la physique, soit l'amitié, soit le langage, soit la musique. Et partout, toujours le thème, c'est de voir montrer comment ces échanges enrichissent notre vie et grâce à cet enrichissement font la beauté de notre vie.
Alors tout ça c'est magnifique, quand on vous entend on est porté sur les ailes du rêve, mais je voudrais revenir à quelque chose de plus concret pour nous pauvres non scientifiques. Vous dites on voit les montagnes par exemple, la montagne si on va s'y promener on peut la toucher quand même.
Oui.
Alors elle est en mouvement comme ça?
Mais elle, nos yeux la voient, c'est des rocs, c'est du granit, c'est dur, c'est ferme. Lorsque vous prenez un microscope, que vous regardez ceci, c'est bourré de microbes qui échangent, qui font du lichen, qui donnent la couleur rouge changeante de la pierre. Lorsque vous prenez un microscope encore plus loin, vous trouvez au niveau de molécules qui sont des molécules dans des structures biologiques. Et lorsque vous allez un peu plus loin, vous arrivez
loin veut dire des microscopes toujours, non, de plus en toujours plus puissants.
Toujours plus puissants. Vous arrivez au monde atomique. Là, on sait que tout l'univers est fait d'atomes. Mais ces atomes, c'est du vide. C'est du vide, c'est une grande coque où il y a on appelle ça des électrons qui tombent, mais c'est des grandes coques. Et puis, tout à fait au centre, il y a un petit noyau qui donne la masse des matériaux. Et tout cet espace est rempli par des échanges d'énergie. C'est encore des échanges d'énergie, encore une fois. Et quand vous descendez au noyau, c'est-à-dire 10 000 fois plus bas, ou 100 000 fois, ou 1 million de fois, vous avez encore le noyau qui est du vide, et puis qui est constitué dans ce qu'on appelle des quarks, on n'arrive même plus à peser tellement c'est petit, mais on sait que c'est ces quarks qui produisent par les échanges les forces qui maintiennent toutes les choses ensemble. Alors c'est bien que vous me posiez la question, l'idée elle va beaucoup plus loin, elle va jusqu'au niveau que tout notre univers, même au niveau sub-microscopique, atomique, etc., est fait d'échanges. Et c'est grâce à ces échanges d'énergie que tout tient, que les quatre forces fondamentales sont créées, que tout est créé.
Alors, qu'est-ce que c'est, ces quatre forces fondamentales?
Alors, les quatre forces fondamentales, c'est quand même étonnant que depuis la plus extrême galaxie que vous voyez avec les télescopes, jusqu'au plus petit atome que vous voyez avec les microscopes tunnels les plus performants, tout ceci est régi par quatre forces. La force de gravitation, cher Einstein.
La force de gravitation. Attendez, on va aller lentement.
La force de gravitation, c'est la force d'Einstein, c'est celle qui tient les choses ensemble.
D'accord.
C'est celle qui fait que
tout ne se démantibule pas.
Quand je fais du ski, je tombe, et que les pommes tombent des arbres.
Ah oui,
voilà, ça c'est la force de Einstein.
D'accord.
Et puis, il y a trois autres forces qui sont la force nucléaire forte, c'est celle qui maintient les atomes ensemble.
D'accord.
C'est-à-dire ces pommes et ces poires qu'on dessine avec des cercles rouges et jaunes, ça qui les maintient ensemble, c'est une force très très forte, mais à très très peu de distance. Il y a la force nucléaire faible, qui est celle qui fait la radioactivité, c'est-à-dire le fait que les atomes puissent être radioactifs. Et puis la quatrième force que tout le monde connaît très bien, mais l'utilise souvent mais connaît pas très bien, c'est la force électromagnétique, c'est-à-dire la force de l'électricité. Et ça, c'est les quatre forces. Avec ces quatre forces, vous composez l'univers entier. Toutes les galaxies, les milliards de galaxies qui sont composées de milliards d'étoiles, notre monde à nous, notre monde microscopique, tout ceci n'est composé que ces quatre forces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait maintenant que ces quatre forces, la nature la plus profonde de ces quatre forces, on n'arrive pas à la connaître. Mais on sait que ces quatre forces tiennent par des échanges de particules.
Donc entre elles.
Chaque force a un véhicule différent, échange ce véhicule permanent avec des objets, et c'est ce qui donne la force de gravitation, c'est ce que donne la force électromagnétique, etc. C'est absolument incroyable.
J'ai envie à ce stade-là de vous poser une question, Francis, une question un peu personnelle. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous pensez qu'il y a un grand horloger derrière tout ça, ou que c'est le hasard qui a fait le Big Bang?
Non, je pense quelque chose entre deux. Je pense entre deux. Pour reprendre une fameuse expression, je ne crois ni au hasard ni à la nécessité. Je crois pas que, mais je suis, en, si vous voulez, la conclusion de ma réflexion sur les échanges, en disant, ça arrive au stade où je me rends compte que nous sommes tous interconnectés. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, je suis interconnecté avec vous. Je suis interconnecté avec la nature ici à l'extérieur, mais véritablement interconnecté. Ça veut dire qu'on est tous part d'un même système. Et c'est un même système qu'on doit profondément respecter et qu'on ne respecte pas assez à l'heure actuelle. Alors, ça se rapproche un petit peu de certaines philosophies asiatiques, si vous voulez, mais une croyance là derrière sur l'universalité dans laquelle nous vivons, et cette universalité dans laquelle nous vivons que nous devons respecter.
Mais le départ de tout ça, parce qu'il y a quand même eu un départ, comment est-ce qu'on appréhende cette éternité?
Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un départ. Le jour du Big Bang, c'est là où le temps a commencé. Avant ça, il n'y avait pas de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire qu'avant le Big Bang, on ne sait pas ce qu'il y avait. Il y a un rideau.
Mais alors, est-ce que c'est pas là que le grand horloger est intervenu?
Il avait peut-être créé de nombreux univers avant.
Peut-être.
On ne sait pas.
D'ailleurs, il y en a peut-être d'autres sur d'autres planètes.
Mais on pense, alors il y a une des théories maintenant, c'est qu'on vit dans un monde de multivers. Il y a toute une série d'univers de tailles différentes. Et nous vivons là au milieu. Mais je ne vois pas la nécessité de trouver un initiateur à tout ceci. Quelqu'un qui aurait été capable de me dire, ce que je trouve beaucoup plus beau au point de vue croyance, c'est de dire que nous a mis dans un sorte de paradis, pas nommément terrestre, mais universel, dans un univers absolument extraordinaire, qui, grâce à ces quatre forces, et puis grâce à une vingtaine de constantes sur lesquelles je ne veux pas m'approfondir maintenant, permet de structurer le monde, vous changez une des forces des quatre que je vous ai décrites d'un dixième, et le monde actuel de notre planète n'aurait jamais existé. Donc il y a un certain déterminisme dans ceci quand même qui est important, et c'est ça que je respecte beaucoup plus que l'idée d'avoir quelqu'un avec une grande barbe qui un jour a pris une baguette magique et dit je crée l'univers.
Ça c'est des belles
illustrations que j'aime lire. Oui. Bah, ça m'intéresse. À l'heure actuelle je relis Asochpart Zarathustra de Nietzsche, que j'ai la chance de pouvoir lire en allemand. C'est extraordinaire de lire ça, mais c'était incroyablement métaphorique.
Donc, je pense que le titre en français pour nos auditeurs qui ne seraient pas.
Ainsi parla
Zarathustra.
Par la Zarathustra, voilà, qui est le chef-d'œuvre de Nietzsche. Je veux simplement dire je n'ai pas besoin pour avoir une croyance de dire quelqu'un a commencé. Tout ce système. Peut-être le système, on croit qu'il a commencé un jour parce que c'est un jour où le temps a commencé. Mais peut-être l'univers existait avant. Il y a d'autres univers qui ont existé avant. Ça m'est égal.
Alors, on va écouter un peu de musique après toutes ces explications denses et scientifiques. Formidable, formidable. Merci Francis pour tout ça, de partager tout ça avec nous. Et on va écouter, donc vous aimez beaucoup Wagner?
Oui, j'aime beaucoup Wagner. Je suis devenu avec les années un grand fanatique de Wagner.
Alors on va écouter. Oui.